Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle émission d'Analyse F1, l'émission numéro 9. J'ai envie de dire seulement l'émission numéro 9 vu qu'Analyse F1 existe depuis plus de 12 mois maintenant et donc que je n'ai pas totalement tenu mes promesses d'une émission par mois. Vous m'en voyez désolé. En tout cas, ne vous en faites pas, hein, ce n'est pas par manque d'inspiration, c'est ça qui est positif. Et à chaque fois, il y a des sujets qui me viennent en tête. Hein. J'en ai pour les prochaines émissions déjà. C'est juste par manque de, comment dire, de temps. Et puis quand l'actualité de la Formule 1 se cumule, eh bien évidemment, je parle de cette actualité et je ne prépare pas d'émission vu que la préparation d'une émission me demande également plus de temps que la préparation des chroniques. Mais voilà, ça vaut le coup parce que ben aujourd'hui le sujet est quand même très important puisque je vais parler du Grand Prix de France. Avant ça, je vais revenir sur deux ou trois sujets qui ont entouré le sport automobile ou le podcast. Tout d'abord, une triste nouvelle encore une fois. Un été 2015 assez triste dans le haut milieu du sport automobile puisque j'ai le regret peut-être de vous annoncer le décès de Justin Wilson suite à un accident qu'il a eu lors de l'avant-dernière manche du championnat d'IndyCar. Justin Wilson était un ancien pilote de Formule 1. Il a effectué deux saisons, Minardi et Jaguar, il me semble. Mais il a surtout été connu aux États-Unis, évidemment, pour sa carrière plus fast en IndyCar, en Champ Car, avec notamment, il a été notamment vice-champion de Champ Car, si ma mémoire est bonne, et il a remporté, je crois, 7 victoires en tout durant sa carrière de Champ Car IndyCar. Donc, c'est un pilote quand même assez renommé dans le plateau, assez apprécié également. Et voilà, ça a été un choc parce que l'accident lui-même, voilà, c'est assez triste. C'est assez triste comme accident qui lui est arrivé. En fait, il y a eu une monoplace devant, c'était sur un ovale, hein, je tiens à préciser. En sortie d'un virage, il y a eu un de ses concurrents devant qui a eu un accident, qui a tapé le mur, qui est d'ailleurs allé à l'hôpital, je crois, deux jours, et finalement, ça allait bien, il est ressorti. Mais voilà, il a eu un accident latéral assez violent, on va dire, contre le mur. Et ensuite, ben, il y a des pièces de sa monoplace à ce pilote, qui est un pilote rookie, il me semble. Je crois que c'est Sage Karam, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe. Hein, je rectifierai dans la description du podcast et sur les réseaux sociaux, évidemment. Voilà, il y a des pièces de sa monoplace qui se sont détachées, tout simplement. Malheureusement, parmi ces pièces, il y avait le nez de la monoplace qui a rebondi un moment sur la tête de Justin Wilson. Comme je l'ai dit, c'est un ovale. Donc un ovale, c'est à des vitesses moyennes très folles, à plus de 300 km/h. Donc, la tête étant un élément qui reste très fragile finalement du corps des pilotes, puisque même avec les grosses améliorations qui ont été effectuées sur les casques, certains chocs font quand même mal. Hein. Ça reste la tête, ça reste un élément sensible du corps humain. Voilà, et donc malheureusement, Justin Wilson est décédé suite à ses blessures subies lors de cet accident. Et évidemment, on envoie toutes nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, de manière générale. Voilà, ça c'était pour la nouvelle assez triste, puisque quand même c'est un pilote assez connu et qui a couru en F1, donc il fallait lui rendre au moins ce petit hommage. Voilà. Ensuite, il y a eu les Pod Radio Podcast Awards, la cérémonie de remise, enfin la cérémonie où ont été dévoilés les lauréats des Pod Radio Podcast Awards, donc de ces PPA. Et donc, j'ai le regret de vous annoncer que malheureusement, Analyse F1 n'a pas fait partie des gagnants. Bon, c'est pas grave, hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup, hein, vous qui avez voté quand même pour Analyse F1. Que ce soit une fois ou plusieurs fois, merci à tous, hein. C'est quand même, c'est très, très gentil de votre part, très cool, et voilà, et je continue. Il faut bien savoir que voilà, les PPA, c'est enfin, dans ma vision des choses, c'est une grande fête du podcast qui sert à fêter un peu tous les podcasts qui peuvent se trouver sur Pod Radio, et en particulier ceux qui participent au PPA. Donc voilà, c'est plutôt sympa, hein. Même sans gagner, ça donne quand même une petite visibilité. Évidemment, les podcasts qui ont gagné, et que je félicite d'ailleurs, évidemment, bénéficient d'une plus grande visibilité, mais c'est quand même assez léger, hein. Ce n'est pas une visibilité énorme, mais c'est toujours ça. Et en tout cas, bravo, bravo à eux. Voilà, après, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas trop vous bourrer le mou avec ça pendant le mois de vote. C'est un choix puisque je ne tweete pas beaucoup sur le compte Analyse F1. Et du coup, si les tweets PPA représentaient la majorité des tweets, enfin, je me place en tant que follower, moi ça m'aurait saoulé. Donc voilà, j'ai préféré parler de F1, parler un peu des PPA de temps à autre quand même pour rappeler que Analyse F1 participe à ce concours. Et voilà, mais en tout cas, dans ma catégorie, donc dans la catégorie poule passionnée, pour information, c'est le podcast Animé nos mélodies qui a gagné et qui a en plus remporté le gros lot. Le gros lot, gros lot, comme dans le sketch des Inconnus. Le gros lot, puisque dans les votes, on va dire, dans la sélection finale, c'est eux aussi qui ont remporté le jackpot. Donc voilà, félicitations à ce podcast. De mon côté, du côté d'Analyse F1, comme je l'ai mis sur Twitter, hein, je keep pushing, hein, je continue à pousser et j'ai des projets, j'ai des projets pour le podcast. Après, de là, les mettre en place, il faudra du temps, de l'énergie, de l'envie, mais surtout du temps en fait. Donc voilà, je me pose en ce moment pour réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, sachez que quoi qu'il arrive, même si j'ai pas beaucoup de temps, le podcast sera en évolution constante, que ce soit sur la forme ou le fond, ça je vous en fais la promesse qui sera tenue, évidemment. Voilà, donc ça c'était pour les PPA, qui était cool, franchement, c'est cool comme expérience. Et voilà, si vous avez un podcast, n'hésitez pas à vous proposer l'année prochaine pour les PPA. Franchement, ça coûte rien. Et faut faire partie de Pod Radio, mais ça, franchement, ça coûte rien. Et ben c'est sympa, ça permet de découvrir d'autres podcasts, d'en faire découvrir d'autres, de faire découvrir le vôtre, du coup. Donc il y a une émulation assez particulière et assez cool autour de ça. Et encore merci, ben, au staff de Pod Choses, hein, et de Pod Radio, qui est derrière cet événement, qui donc s'est déroulé durant le 27-24, hein, les 27 heures de podcast d'affilée, de la part notamment de Pof et Feel Good, hein, qui sont donc les créateurs de Podchose, Podcloud, Podradio, et qui œuvrent au développement de ces services. Et également, il y avait des invités présents sur le plateau et sur Mumble. Donc voilà, c'est un événement assez sympa autour du podcast. Voilà, c'était le petit point. Il faut maintenant parler un peu du Grand Prix de Belgique, hein, revenir un peu à la Formule 1 tout de même, avant d'en parler, hein, avant de parler de la F1 vraiment de manière très concrète. Donc le Grand Prix de Belgique a été remporté de main de maître par Lewis Hamilton, encore une fois. Meilleure qualification que Rosberg, assez largement. Meilleur départ, assez largement. Et maîtrise de la course. Maîtrise de la course de manière sereine. Même si Rosberg a essayé de pousser. Son mauvais départ lui aura coûté toute chance d'essayer de lutter devant et de pousser Hamilton à la faute, ou d'essayer d'aller le chercher au dépassement. Voilà, c'est dommage. Mais c'est un peu la lignée de cette saison. La majorité des Grands Prix, c'était domination Hamilton. À Rosberg, d'essayer d'inverser la tendance, comme il a pu le faire épisodiquement. Ça, on va voir à Monza s'il en est capable, et ainsi inverser la tendance de l'an dernier où il avait craqué sous la pression. En troisième position de ce Grand Prix, on trouve Romain Grosjean, superbe podium du pilote français, avec sa Lotus, hein, c'est vraiment impressionnant. Et il y a eu d'autres performances assez, on va dire, inhabituelles de certaines autres écuries, que ce soit en bien ou en moins bien. Et ça montre juste qu'il ne faut pas s'alarmer, hein. C'est pas la pause, c'est pas durant la pause qu'ils ont apporté des évolutions énormes, notamment Lotus qui n'en a pas apporté, et pour cause, puisque l'écurie a choisi de ne pas dépenser de sous en attendant enfin de ne pas apporter d'évolution en attendant que Renault se décide à acheter ou pas l'écurie britannique. Et en attendant, ils ne font rien. Quand ils sauront la décision, ils pourront être plus fixés sur leur avenir. Voilà, j'en reparlerai sûrement d'ici très peu de temps quand Renault aura pris sa décision. Mais voilà, Lotus, très bon résultat, franchement, pour cette écurie qui était en perdition depuis début 2014, hein, il faut le dire. Cette année, il y a du mieux, notamment en début de saison, mais l'absence d'évolution a réduit encore le team à une place de milieu de tableau assez triste. Et donc là, ça arrive vraiment au moment assez inhabituel, ce podium, et très bonne performance de Romain Grosjean qui a vraiment été très rapide et qui aura tout donné durant ce Grand Prix. 10e podium pour le pilote français. Très intéressant quand même, hein, il faut le noter. Il faut le noter, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont 10 podiums dans leur carrière et qui sont sur la grille aujourd'hui. Donc voilà, faut pas l'oublier. Je l'ai jamais oublié, au Grosjean, dans les pilotes forts et qui ne sont pas dans un baquet très puissant. Voilà, c'était pour le Grand Prix de Belgique. Donc au championnat du monde, eh bien, Hamilton accroît son avance. 28 points d'avance sur Rosberg, c'est très important puisqu'il a une victoire d'avance de plus que son coéquipier, une victoire d'avance sur son coéquipier et même plus que ça. Donc c'est toujours intéressant pour aborder les derniers Grands Prix de la saison. Voilà, c'était tout pour cette petite introduction, cette même longue introduction. Maintenant, je vais parler du Grand Prix de France et oui, puisque c'est un peu l'Arlésienne, le filet rouge, appelez-le comme vous voulez ce Grand Prix, mais il faut en parler. Puisque voilà, il y a une grande attente autour de ça. En France, on est en France, donc l'intérêt est plus grand. C'est pour ça que j'en parle également, parce que je sais que ce sujet tient à cœur la plupart d'entre vous. Et donc j'ai décidé d'y revenir et de revenir sur ça, sur trois points. Tout d'abord l'historique. L'historique de ce Grand Prix de France, sa disparition, les tentatives qui ont été faites pour un retour. Ensuite, je parlerai de l'importance de la tenue d'un Grand Prix de France. Pourquoi c'est important qu'il y ait un Grand Prix de France dans le calendrier? Et enfin, j'essaierai de voir quelles sont les possibilités de retour, quel peut être l'avenir à court ou moyen terme d'un Grand Prix de France, d'un retour d'un Grand Prix de France au calendrier de la F1. Donc, l'intérêt également, je le disais, c'est les gens, c'est-à-dire nous, vous, pour ce Grand Prix de France. Pourquoi? Parce que également on veut assister, vous voulez assister à ce Grand Prix au plus près de chez vous, assister à un Grand Prix de F1 au plus près de chez vous, c'est-à-dire vraiment vivre votre passion de manière concrète en voyant vraiment de vos yeux les Formule 1 et en voyant la course de vos yeux. Donc voilà, c'est normal que des citoyens d'un pays veulent un Grand Prix dans leur pays et surtout, ben surtout en France, puisque voilà, j'en parlerai durant l'historique un peu plus, mais surtout en France. Et Grosjean, Romain Grosjean est un pilote français qui est en Formule 1 et il aimerait pouvoir courir à domicile, évidemment. On a également Renault qui est un motoriste français. Bref, la France entoure la F1 et à bien des égards, c'est ce qu'on va voir durant ce podcast. Donc tout d'abord, je vais revenir sur l'historique de ce Grand Prix de France, sur sa disparition, sur ses tentatives de retour, hein, qui étaient assez marrant. Assez marrantes. On va voir que quand même le déroulement des choses était assez comique. Bon, pas pour nous, vu que malheureusement en tant que citoyen français, nous n'avons pas de Grand Prix de France, mais c'est assez comique dans son déroulement pour voir la façon dont ça ne s'est pas passé justement. Donc tout d'abord la disparition du Grand Prix de France, parlons des choses joyeuses, puisque en 2008 s'est tenu le dernier Grand Prix de France à Manicourt avec une victoire de Felipe Massa et un doublé Ferrari. Voilà, donc Felipe Massa, dernier vainqueur en France, et qui court encore aujourd'hui, donc ça nous rapproche, on va dire que tant que le vainqueur de ce Grand Prix est encore là. On va dire que c'est encore récent, mais ça fait quand même 7 ans, hein. Je tiens à le signaler, ça fait 7 ans. La raison invoquée à la disparition de ce Grand Prix de France a été donc le fait que le circuit était difficile d'accès avec un problème au niveau des routes, hein. On pouvait accéder au Grand Prix que par des petites routes, même à une époque que par un chemin, une route carrément, on va dire, creusée dans un champ. Donc évidemment, ça ne le fait pas pour un Grand Prix de Formule 1, surtout on va dire à l'horizon fin des années 2000. Et il y avait un manque d'hôtels à proximité également. Donc manque d'hospitalité, ça fait mauvais genre également. Alors là, on va me dire, évidemment, ces défauts existaient déjà avant. Donc pourquoi tout d'un coup, tout à coup, on a dit au Grand Prix de France, ah ben non, c'est pas possible à cause de ces défauts. Eh bien parce que les exigences, tout simplement, ont évolué avec le progrès, ont évolué avec le temps, et donc ce que recherchent les spectateurs a évolué, tout simplement, ce que recherchent les spectateurs a évolué, et il faut s'adapter, tout simplement, c'est la loi de l'offre et de la demande, et Bernie Ecclestone est très strict avec ça. Il est très strict avec ça, il a des exigences qui évoluent de manière permanente envers les promoteurs, envers les circuits, et tout le monde doit s'y plier. Il n'y a pas de passe-droit de la part de n'importe quel grand prix, même s'il a pu être plus souple avec certains grands prix, hein, qu'il est prêt à la discussion, mais il reste assez strict avec certains éléments, et donc ces éléments-là, ces éléments qui étaient donc, on va dire, relativement nouveaux, donc l'accès au grand prix, les hôtels à proximité, voilà, c'est des éléments importants qui font qu'un grand prix va attirer. Et qu'un grand prix va générer économiquement des retombées. Et donc le Manicourt n'avait pas ça. Et donc ben, tout simplement la décision a été d'abandonner la tenue de ce grand prix. Alors évidemment ces défauts ils peuvent être résolus avec un coup de sang neuf, quelques années de travail. Ça peut être résolu hein, par Manicourt. Mais c'est vraiment loin d'être aussi simple. Comme d'ailleurs la suite de l'histoire va le montrer. La suite de l'histoire montre que voilà, certes Manicourt a essayé d'évoluer, à résoudre ses soucis, mais ça n'a pas été suffisant, et puis en plus il y a un autre circuit qui s'en est mêlé. Bref, là nous sommes donc 4 ans plus tard, en 2012, puisqu'on parlait d'une tenue de Grand Prix de France pour 2013. Donc là déjà, il y a eu déjà quelques années où Manicourt est resté sans Grand Prix de Formule 1, la France plus généralement est restée sans Grand Prix de Formule 1, puisque après l'abandon de Manicourt, et bien directement après, il n'y avait pas de circuit en France qui était équipé pour pouvoir accueillir un Grand Prix de France. Et en 2012, ça a changé, puisque le Castellet, le circuit du Paul Ricard, s'est proposé avec un projet intéressant, bien mené, avec Alain Prost en soutien en plus de cette candidature. Et ça, c'était début 2012. Alors, en début 2012, on parlait fortement du Castellet, il y avait des débuts de discussion avec Ecclestone. Et ensuite, en avril, si je ne me trompe pas, il y a eu les élections présidentielles. Les élections présidentielles. Voilà, on a eu donc un changement de gouvernement. Un changement de gouvernement de la droite à la gauche. Et comme à chaque changement de gouvernement, gauche-droite ou droite-gauche, eh bien, le nouveau gouvernement essaye de contredire un peu ce qui a été fait avant. Et donc là, ça a été le cas puisque la ministre des Sports, Valérie Fourneyron, à l'époque, a mis son grain de sel, on va dire, dans la candidature du Grand Prix de France. Et donc, par un simple esprit de contradiction, parce que c'était pas un esprit de logique ni rien, c'était un simple esprit de contradiction, elle a voulu mettre Manicourt dans l'histoire en, comment dire, en mettant en concurrence, en voulant mettre en concurrence Manicourt et le Castellet. Voilà. Elle a voulu mettre en concurrence Manicourt et le Castellet. Alors, certes, c'est par esprit de contradiction, mais est-ce que par là, il n'y a pas aussi un certain parisianisme, vu que Manicourt est bien plus près de Paris que le Castellet qui se situe dans le sud de la France? Ça peut être le cas également. Et également, est-ce que cette action voulait tout simplement pas dire, eh ben, on veut pas de Grand Prix de France, donc on va pas le dire directement, mais on va essayer de faire en sorte que ça capote quand même. C'est possible, hein, puisque on va dire que les politiques locales et les politiques locaux et les politiques nationaux, eh bien, ne sont pas très friands de Grand Prix automobile aujourd'hui, pour des raisons tout simplement de fausse écologie. Et d'autres arguments, enfin surtout de fausse écologie et de dépenses, on va dire, et de dépenses excessives, puisqu'il faut satisfaire la partie de la population qui a cette pensée et qui fait partie de l'électorat. Voilà, ça c'était pour la petite partie. Donc voilà, il ne s'agit pas de non plus de dans cette émission et dans l'analyse F1 d'exprimer un avis politique, on va dire, enfin d'un parti pris surtout, d'avoir un parti pris, ce n'est pas du tout ça. Ça aurait été l'un ou l'autre des gouvernements, ça aurait rien changé. Et puis d'ailleurs, de 2008 à 2012, il n'y a pas eu de Grand Prix de France, ni de, on va dire, d'aide de la part des hommes politiques pour qu'un Grand Prix de France soit tenu rapidement. Donc voilà, c'est tout simplement pour exprimer des faits. Là, j'exprime tout simplement des faits. Et voilà, donc il y a eu de la concurrence entre Magny-Cours et le Castellet. Ça a été un fait, hein, il n'y a pas eu le choix. Magny-Cours, donc, ben, était content, hein, c'est mêlé à l'histoire. Le Castellet l'était un peu moins. Et puis ensuite, il y a eu, du coup, ben, des tergiversations qui ont duré plusieurs mois, avec Magny-Cours et le Castellet qui se battent à coups de « Moi, c'est le meilleur circuit. Moi, j'ai les meilleures installations. Moi, je peux accueillir la Formule 1, pas toi. » Enfin, il y a eu ça. Puis ensuite, finalement, on s'est un peu entendu. Enfin, on a parlé d'alternance entre les deux Grands Prix, possible alternance, une année sur deux. Et puis finalement, ça a duré plusieurs mois et trop de mois. Bernie Ecclestone, lui, ça l'a, à mon avis, ça l'a énervé. En tout cas, le fait est qu'il n'a pas eu le concret qu'il recherchait. Et donc, ben, rien n'a abouti. Il a dit non. Il a dit, ben, voilà le calendrier. Il est prêt, hein, et vous n'êtes pas dedans. Vous ne m'avez pas, on va dire, proposé ce que j'attendais, tout simplement. Je m'en fiche de vos discussions. Moi, je veux du concret, tout simplement. À côté de ça, on a eu le refus de l'État d'aider, comme je l'ai dit. Hein. Ça, c'est la continuité, hein, le refus de l'État de donner des subventions ou d'aider, quoi, de fournir des aides. Pareil avec les collectivités territoriales, très compliqué, hein, ça a été difficile. Bon, faut dire qu'il y avait une crise des collectivités territoriales de manière budgétaire, je crois, donc ça n'aide pas non plus. Mais bon, c'est vrai que de voir aucun élément de pouvoir aider à la tenue d'un Grand Prix de France, c'est assez triste. Et j'en reparlerai dans la deuxième partie du podcast où je parlerai de l'importance de la tenue d'un Grand Prix de France, ça en fait partie. Voilà. Et c'est très important, je pense, que les politiques locales puissent aider à la tenue d'un Grand Prix. Il faut voir en Italie. En Italie, Monza aurait pu disparaître, hein, ces dernières années, mais les collectivités territoriales de la région de Monza ont aidé à ce que Monza tienne le coup et soit toujours au calendrier. Et tout simplement, ont aidé à sauver le Grand Prix de manière concrète, alors que Monza c'est un grand prix historique. Mais voilà, avec Ecclestone, il a des, comment dire, il a des impératifs au niveau argent, au niveau installation, au niveau tout, et il faut que tous les grands prix, tous les circuits s'y tiennent. Et voilà, bon, heureusement on n'a pas la disparition de tant de grands prix historiques que ça, mais le Grand Prix de France, c'en est quand même un, je le montrerai tout à l'heure, hein, encore une fois dans la deuxième partie de l'émission, mais c'en est un, donc il faut vraiment en parler. C'est aussi pour ça que l'émission est importante. Puisque voilà, la France reste quand même un bastion historique du sport auto et de la Formule 1. Donc un retour me paraît pertinent. Ça a été donc une grosse déception en 2012, quand le Grand Prix de France en 2013 n'a pas été annoncé, puisqu'on l'attendait vraiment, hein. Vraiment, il y avait vraiment une hype, un engouement vraiment énorme autour de ça, hein. Je suivais de semaine en semaine l'avancée du truc, et finalement, ça s'avérait être une vaste blague. Une vaste blague, et ben, il y a une grosse déception de la part des pilotes français, puisqu'en 2012 on a eu 3 pilotes français, et en 2013 4 pilotes français, si encore une fois les chiffres que j'ai recherchés sont bons. Donc c'était le très bon moment pour qu'il y ait un retour du Grand Prix de France et réaffirmer vraiment la France au centre de la Formule 1. Mais non, ça n'a pas été le choix opéré. Il y a eu toutes les complications que j'ai citées, et finalement, ben, pas de Grand Prix de France. Et en plus des pilotes français, à cette époque-là, on avait le moteur Renault qui était dominant, hein, qui était champion du monde. Donc ça aurait été d'autant plus pertinent. Malheureusement, pas de retour. Et il faut revenir, il faut aller en 2015, enfin en 2014, c'est-à-dire 2 ans plus tard, pour retenter un retour du Grand Prix de France. Mais ça, j'en parlerai après une pause musicale. A tout de suite, bonne écoute. We'll Nous sommes de retour d'Analyse F1 et vous venez d'écouter une musique de Project Phoenix Victory. Donc nous en étions à l'historique du retour d'un Grand Prix de France, de sa disparition et des tentatives multiples de retour qui finalement s'avèrent être assez comiques malgré elles. C'est ça qui est triste surtout. Donc en 2014, on a reparlé de Manicourt, seulement de Manicourt, qui était dans le coup pour accueillir un Grand Prix de France pour 2015. Alors, encore une fois, les pourparlers se passent très bien, comme toujours. Hein. Ça, c'est la constante, hein. C'est que on parle bien avec Ecclestone, on parle bien, les pourparlers se passent bien, comme toujours. Mais au final, eh ben, ça reste un échec. Ça reste un échec. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Ecclestone n'est pas satisfait. Il est pragmatique, Ecclestone, dans son boulot d'argentier de la F1. Il est très pragmatique depuis ses débuts, d'ailleurs. Et donc, si échec il y a, c'est que, voilà, tout simplement, les conditions actuelles pour entrer au calendrier de la F1 ne sont pas remplies, tout simplement. Et donc, quand il n'y a pas ces conditions, Ecclestone, il met son veto, évidemment. Donc déjà, il y a les conditions qui ne sont pas remplies pour que la France accueille un Grand Prix, pour que le circuit accueille un week-end de Grand Prix, donc avec tout ce que ça implique aujourd'hui, hein, et ça implique de plus en plus de choses, hein, on le voit autour des Grands Prix, il y a des concerts, il y a des événements, il y a des simulateurs pour les gens où ils doivent battre un temps, il y a des rencontres avec les pilotes, il y a pas mal de choses organisées, il y a des courses, hein, d'autres courses que la Formule 1 durant un week-end de Grand Prix, donc il faut pouvoir organiser tout ça, il faut des hôtels à proximité, des éléments VIP, enfin voilà, des grands axes pour pouvoir accéder au circuit, pour pas que ça bouchonne de trop. Bref, il faut tout ça et bien plus encore. Et ben, si la France ne peut pas proposer ça, et bien Ecclestone va dire non, tout simplement. Et c'est triste, hein, parce qu'on a les moyens de se permettre ça. C'est tout simplement un manque de volonté et de, comment dire, et un peu d'archaïsme, tout simplement. Et voilà, il faut aussi peut-être citer le manque de sous, parce que les droits pour entrer en Formule 1, au calendrier de la Formule 1, sont très élevés. Ça, c'est un peu peut-être ce qui est assez triste et ce qui fait en sorte que certains Grands Prix ont des difficultés. Monza a des difficultés, le Grand Prix d'Allemagne a tellement de difficultés qu'il n'a pas pu tenir un Grand Prix cette année. La France a disparu. Voilà, la Belgique est déficitaire, mais se tient encore. Tant mieux, hein, on parlait d'alternance, qu'il ne soit plus couru tous les ans. Heureusement, ce n'est pas le cas. Bon, Silverstone, ça semble aller, hein, je n'ai pas entendu de problème. Hein, ça, c'est vraiment le berceau total de la F1, ça, Silverstone. Et l'Angleterre. Voilà, donc on peut aussi, à mon avis, il y a un problème de manque d'argent de la part des circuits français. Ça doit jouer. Donc voilà, il y a tout ça qui joue, et également plus, puisque voilà, Bernie Ecclestone, il n'est pas plus bête que moi. Il voit bien qu'en France, il y a un manque de soutien pour héberger un Grand Prix. Manque de soutien du pays, manque de soutien des régions. Donc voilà, après, il va pas chercher plus loin. Il voit qu'il y a un manque de soutien. Qui dit manque de soutien, dit manque de promotion ensuite autour de ça. Il voit même qu'il y a une sorte de défiance à l'égard du sport auto. Donc Ecclestone, il va se dire, oulala, ça c'est pas un marché qui va attirer du monde, hein, qui va attirer les habitants de ce pays. Ça veut pas d'un Grand Prix. En plus, mis à part les hommes politiques, il faut parler des gens également, qui croient un peu tout ce qu'on leur dit des fois à propos de la Formule 1, et qui donc avalent tous les a priori possibles et inimaginables. D'ailleurs, en parlant de ça, eh bien, je vous renvoie à l'émission numéro... Ah, je ne sais plus. C'était l'émission sur les clichés autour de la Formule 1. Vous allez mieux comprendre mon propos de tout de suite en écoutant cette émission. Je parlais des différents clichés. Et donc voilà, les gens qui avalent certains clichés, et ils sont nombreux, malheureusement. Et donc, ben, ça ne joue pas en la faveur, puisque la vie des gens est très important, et Ecclestone, il voit bien tout ça, il est pas bête, hein. Il est pas si bête que ça, il y a que dans ses déclarations, on va dire, qui ne concernent pas son poste d'argentier, si on peut appeler ça un poste, mais voilà, son activité d'argentier. Toutes ses déclarations sont assez insipides la plupart du temps, mais sinon, quand il s'agit de son boulot, il le fait très bien depuis quand même assez longtemps, il faut lui rendre ça. Et donc voilà, il y a tout ça qui fait que ben, un Grand Prix de Formule 1 ne se passe pas. Et voilà, si le seul argument de la France et des circuits français, c'est que la France est un bastion historique et qu'il faut tenir un Grand Prix là-bas et que voilà, on est un berceau historique, voilà, la F1 doit s'amener d'elle-même. Non, c'est pas à la F1 de faire le premier pas, c'est à la France de faire le premier pas pour qu'un Grand Prix se tienne. Ce n'est plus comme avant, il faut se faire avec son temps et un peu régler tout ça. Mais bon, après, la faute est commune, hein, la faute est commune à tout le monde, là. Hein. Franchement, là, on peut partager les torts à tout le monde. Même Ecclestone, hein, il fait son boulot, mais c'est vrai qu'il est assez strict et les exigences ont augmenté. Et malheureusement, c'est une des raisons qui font qu'un Grand Prix de France n'a pas lieu encore, hein, et ça fait 7 ans que ce Grand Prix de France n'a pas lieu, et c'est très triste. C'est très triste, puisque, comme je vais en parler maintenant, pour moi, la tenue d'un Grand Prix de France est quand même très, très, très importante, que ce soit pour le sport, évidemment, et pour le pays. Et pour le pays. Tout d'abord pour le sport, puisque, voilà, on pourrait dire que c'est du sport, tout ça. Mais ça va quand même bien plus que cela. Ça revêt un enjeu bien plus que sportif, un enjeu économique, un enjeu ben, d'envergure sur le plan international, hein, en termes de, comment dire, de visibilité, vu que la F1 est un sport très suivi. Et voilà, finalement, je vais parler en premier, on va dire, de l'importance du point de vue national et ensuite de l'importance du point de vue sportif. Donc voilà, pour moi, c'est bien plus que du sport tout ça. Et d'ailleurs, il y a un très bon article de Polo Breitner sur Slate qui illustre facilement ce que je vais dire et qui est facilement trouvable hein, sur un moteur de recherche. Vous tapez article, jeu d'échecs, Polo Breitner, Slate, et vous devriez trouver facilement l'article. C'est un article donc sur les échecs, hein, comme vous l'avez compris avec les mots-clés que j'ai cités. Et en fait, le propos de Polo Breitner était. C'est un pseudo, hein, évidemment, c'est pas le footballeur Paul Breitner, hein, c'est Polo Breitner, un journaliste. Un très bon article sur les échecs où il déclare, il démontre que les échecs a été un instrument géopolitique de tout temps, depuis que le jeu d'échecs existe, donc depuis des siècles et des siècles. Et donc, les échecs sont réputés pour être le jeu des rois, hein. C'est pas pour rien, donc d'où cet instrument géopolitique. Alors on pourrait croire que voilà, ça a un peu disparu, parce que maintenant on est dans l'ère de la modernité, on a découvert d'autres jeux, d'autres sports et tout, mais finalement, il démontre très bien que même aujourd'hui, ça l'est encore, hein. On peut quand même trouver des éléments géopolitiques dans les échecs et dans les compétitions d'échecs, dans les résultats de ces compétitions, et il le démontre de façon très bien, ça, c'est très intéressant. D'où d'ailleurs l'expression l'échiquier mondial, par exemple, hein, qu'on peut utiliser. Par exemple, quand on parle de place sur l'échiquier mondial, on parle bien de, on va dire, de place en termes de classement. Par exemple, si on dit les États-Unis sur l'échiquier mondial du blé est première, je dis n'importe quoi, et le premier pays, ben voilà, on parle d'échiquier mondial et très bien placé sur l'échiquier mondial. L'échiquier européen, bref, c'est une expression assez connue. Et pour cause, hein, puisque j'ai dit que c'était le jeu des rois et que ça revêtait comment dire, un intérêt géopolitique certain. Donc voilà, les échecs entre deux adversaires servent à asseoir une position par rapport à l'autre, hein, évidemment, c'est très important. Les gouvernants, les hommes de pouvoir de tout temps, même maintenant, aiment bien, apprécient beaucoup le jeu d'échecs. Et apprécie beaucoup le jouet. Donc c'est encore dans les mœurs hein, des rois, on peut dire, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets. Et donc ça peut revêtir un intérêt vraiment fort pour les pays pour se faire une place dans le monde. Et ça, l'article le démontre très bien. Hein. Ça, je ne rentre pas dans les détails. Allez voir l'article, allez le lire, franchement. Il est très intéressant et démontre très bien ce que je viens de dénoncer en quelques phrases, et de manière pas forcément très claire d'ailleurs. Donc je vous invite à le lire. Mais voilà, le fait est que la France a abandonné cette culture, donc du jeu d'échecs, a abandonné, on va dire, les filières du jeu d'échecs, les clubs, les subventions aux clubs d'échecs, aux fédérations. Et la décision de la France et donc des pouvoirs politiques français illustre très bien la position générale qui est beaucoup moins prépondérante de la France sur l'échiquier mondial d'ailleurs. Puisque voilà, la France, on en parle beaucoup moins parmi les plus grandes puissances. Il y a des puissances émergentes comme l'Inde, la Chine, qui sont même plus qu'émergentes maintenant, la Chine est installée, hein. Des puissances comme la Russie, les États-Unis qui sont installées également depuis longtemps, d'autres puissances également qui émergent, la Corée du Sud peut-être, enfin bref, toutes les puissances possibles et inimaginables, et la France est beaucoup moins installée, descend beaucoup plus dans la hiérarchie, et on y retrouve dans les échecs. Et oui, on y retrouve dans les échecs, c'est un parallèle parfait avec les échecs. Et c'est assez triste. C'est assez triste, et on peut le voir donc. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'on peut le voir également avec la F1, je vais faire un parallèle. C'est-à-dire que la F1, et là on vient à l'importance d'un Grand Prix de France dans la F1 et de manière nationale, hein, là les deux se rejoignent, puisqu'il y a eu un Grand Prix de France de 1950 à 2008. À chaque fois, donc depuis le début du championnat du monde de F1, il y a eu un Grand Prix de France, jusqu'à 2008. On a eu des Grands Prix au Mans, un Grand Prix au Mans, quatre Grands Prix à Clermont-Ferrand, au circuit de Charade, on a eu des grands prix à Dijon-Prénois, à Rouen-les-Essarts, à Reims, au Castellet et à Ménicourt. Donc voilà. Ce qui est triste, c'est que maintenant, un retour de la F1 en France n'est pas du tout essentiel. C'est comme les échecs, ça devient quelque chose de pas du tout essentiel pour certains, pour ceux qui dirigent le pays notamment et ceux qui comment dire, pourraient aider au retour d'un Grand Prix de France. C'est pareil que pour les échecs, hein, les échecs un peu abandonnés, et du coup la France des échecs est plus faible qu'avant, hein, même bien plus faible qu'avant. La F1, eh bien c'est le cas, il n'y a pas de Grand Prix depuis 7 ans, c'est un désintérêt total de la F1. On ignore l'importance du berceau du sport automobile qui est la France, et de l'importance également de faire partie de la discipline reine. Et pire, on diabolise la F1 en plus pour servir ce que j'ai dit, une certaine politique, on diabolise à fond la F1 et on ne l'aide pas. Donc voilà, alors que pourtant la F1, oui, j'ai parlé de l'écologie, mais il faut parler aussi de l'aspect sécurité routière, hein, puisqu'on fait passer souvent les pilotes de F1 dans les médias généralistes et tout. Oh oui, il faut parler des médias également, pas seulement des hommes politiques. Dans les médias également, on fait passer les pilotes de sport auto pour un peu des fous, ce qui est assez triste. Alors que pourtant, la sécurité routière et le sport auto ne font qu'un. Enfin, je veux dire, sur les Grands Prix de F1, il y a à chaque fois le message bien en vue. Avant le départ des Grands Prix, généralement, think before you drive, says Bernie. Donc, réfléchissez avant de conduire, dit Bernie. Voilà, la FIA fait beaucoup pour la sécurité routière dans le monde. La F1 fait beaucoup pour la sécurité routière. On oublie beaucoup l'héritage que laisse la F1 en termes de sécurité, en termes de, on va dire, de transposition de la technologie de la F1 à la route. Ça, on l'oublie beaucoup. Et on préfère raisonner de manière triviale. Donc ça, c'est triste. Ça serait triste alors que les deux peuvent aller de pair. C'est comme avec l'aspect écologique, hein. La F1, depuis 2014, embarque des unités de puissance hybrides. Et il y a des limitations en termes de consommation d'essence. Donc voilà, les deux, franchement, ça n'a pas de sens d'attaquer la F1 là-dessus. Mais voilà. La France n'est pas seule fautive, hein, il faut le dire. Je l'ai déjà dit et je vais revenir dessus, c'est que la F1 vend très mal son sport et se sabote toute seule. La F1 vend très mal son sport et se sabote toute seule. Et ça, je le dis assez souvent. Et c'est très triste, hein, la communication de la F1 autour de son sport est très mauvaise, hein, et très négative surtout. Je suis pas seul à l'avoir remarqué dans le paddock. Je sais que c'est Toto Wolff, je crois, qui en avait parlé. D'autres grands noms en avaient parlé. Et donc, ça joue également, ben voilà, à ce que le Grand Prix de France ne reviennent pas, ça c'est clair. Donc voilà, c'est assez triste et c'est un parallèle, je pense, très, très intéressant entre la F1 et les échecs en France, puisque l'un comme l'autre ne revêtent une place de moins en moins importante alors qu'il faudrait, puisque la F1, qu'est-ce que c'est que la F1? C'est le plus grand sport automobile du monde, un des plus grands sports au monde, un des sports les plus suivis au monde, et donc un sport où si on ne voit pas la France dans le calendrier, ça fait quand même mauvais genre, puisque à côté on voit toutes les grandes puissances. Ah tiens, c'est un peu comme les échecs, où toutes les grandes puissances, ou les puissances émergentes, on les voit, mais pas la France. Et oui, les États-Unis ont un grand prix et cherchent à en avoir un deuxième, la Russie a eu un grand prix récemment, la Chine en a un, le Japon, l'Inde en a eu un, l'Allemagne va être de retour en 2016 sans aucun doute, etc., etc. Et en France, à côté, on n'en a pas. Mais voilà, l'élément d'espoir, c'est qu'on a encore une bonne formation de pilotes, puisque à chaque fois, on voit des pilotes français qui émergent et qui remportent des catégories inférieures, qui vont même en F1, donc c'est très intéressant. On a des courses en France dans les formules inférieures. Ça, c'est heureusement, on les a encore. On a des championnats de France dans plusieurs catégories. On a des simulateurs hein, de pilotage hein, un peu partout. Et on a un pilote français de très bon niveau en F1 et qui fait la vitrine à lui tout seul avec également le moteur Renault quand il fonctionne. Donc, on a tout ça pour l'instant. Donc, c'est très bien, mais sans vitrine, sans la véritable vitrine française d'un grand prix de F1, eh bien, la tour entière peut tomber. Selon moi, la tour entière pourrait tomber. Donc, tout ce que j'ai cité, là, les courses, les championnats, le pilote français, la bonne formation, sans la vitrine, si ça dure trop longtemps, à mon avis, la tour entière peut tomber. Le sport automobile français pourrait se retrouver vraiment échec et mat. C'est une vision pessimiste des choses. Mais elle pourra arriver. Il faut faire vraiment très attention. Parce que ça pourra arriver plus vite que prévu. Et d'ailleurs, bah, j'aimerais beaucoup, hein, si d'ailleurs il y a des personnalités du sport automobile français qui œuvrent à des organisations de championnats ou qui dirigent des circuits, entre autres, ou qui participent à la formation de pilotes, j'aimerais beaucoup entendre leur avis sur ce que je viens de dire. Pour voir si ça rejoint un peu mon analyse, ou et pour en tout cas avoir une discussion constructive autour de ça, je serais ravi de pouvoir les interviewer à ce propos. Voilà, donc ça c'était ben c'est assez triste quand même parce que la F1 pourrait permettre quand même ben d'avoir une vision une visibilité au niveau mondial et finalement on passe à côté de ça. Et voilà, donc d'où le parallèle avec le fameux article que vous pouvez retrouver sur Slate. Et d'ailleurs, c'est cet article qui m'a un peu décidé à faire cette émission sur le Grand Prix de France, puisque j'ai trouvé le parallèle intéressant, même si évidemment les échecs ont une importance bien plus majeure comme instrument géopolitique, c'est le jeu des rois, que la F1, mais la F1 étant un sport quand même de renommée internationale, ça reste important d'avoir son Grand Prix quand on estime être une grande puissance. Voilà, bah c'était tout pas pour cette émission, ce n'est pas fini, il va falloir parler de l'avenir, d'un Grand Prix de Formule 1, d'un retour possible, des alternatives qui se proposent. Mais ça, on va le faire après une petite pause musicale, à tout de suite, bonne écoute. écoutez bien Analyse F1 et vous venez d'écouter Champion, une musique de Roma Aguichev. Vous pouvez retrouver les liens des musiques d'Analyse F1, des pauses musicales d'Analyse F1 dans la description du podcast et également si vous voulez découvrir d'où vient le générique de fin, c'est une musique du groupe Y Blues que je remercie encore de m'avoir laissé utiliser leur musique en fin de podcast et vous pouvez retrouver leur album sur yblues.com et bien plus encore et les dates de leur concert. Voilà, on est de retour pour conclure ce podcast hein, dans le calme et la sérénité puisque là bon, on s'est un peu énervé quand même, on a un peu élevé le ton puisque bah, voilà, l'importance d'un Grand Prix de France et c'est important pour vous, c'est important pour moi hein, quand même ce Grand Prix, c'est important pour tout le monde en fait, et, enfin pour tout le monde non, bah justement pas pour tout le monde et malheureusement les personnes pour qui c'est pas important, c'est justement les personnes pour qui ça devrait être très important. Donc à voir à l'avenir. Et d'ailleurs l'avenir, qu'est-ce qu'il nous réserve? Est-ce qu'on peut espérer avoir un Grand Prix de France à court terme? À court terme, non, parce que l'année prochaine, a priori, il n'y aura pas de Grand Prix de France, sauf si pour une fois, au lieu de pourparler, il y a un dossier concret qui tombe sur la table d'Ecclestone, et là ça pourrait le faire, mais il y a eu un calendrier provisoire, déjà et la France n'en faisait pas partie, donc ça semble mort pour la saison prochaine. Il faudra voir encore une fois le fil rouge pour peut-être 2017. Mais c'est quand même dommage, hein. c'est quand même assez triste. Hein. Alors au début, je comptais en fait ce que je vous disais que je me suis décidé il n'y a pas très longtemps pour ce podcast, pour faire le podcast sur le Grand Prix de France. Parce que j'avais l'idée depuis le début, hein, depuis l'année dernière, de faire ce podcast. Mais j'attendais de voir si le Grand Prix de France allait se tenir. Et finalement, je me suis dit, si j'attends, je risque d'attendre vraiment très longtemps, en fait. Puisque vu le ridicule de la situation, quelque part, eh bien, j'ai bien fait de pas attendre. Donc, je vous propose ce podcast maintenant. Mais évidemment, le fil rouge continue. Et on va suivre ça avec grand intérêt. Et je risque d'en reparler d'ici l'année prochaine, ça c'est clair. Du Grand Prix de France. Voilà, c'est assez triste. C'est assez triste parce que d'un autre côté, la France, bon, il faut quand même dire ce qui est. Il y a quand même l'Euro 2016 de foot qui va se tenir, qui a été très important. Parce qu'évidemment, le foot, c'est le sport le plus populaire. Ça, par contre, on met les moyens. Ça, c'est clair. Ensuite, il y a les Jeux Olympiques qui revêtent une importance particulière. Voilà, il y a tout ça. Alors, d'un côté, ça pourrait, on pourrait se dire, ah, la F1 est diabolisée, il y a d'autres trucs qui sont organisés et pas le grand Prix de France. Mais on pourrait aussi avoir le raisonnement un peu inverse qui pourrait se dire que, ouais, la France, finalement, sait mettre les moyens pour des événements sportifs, pour se montrer au niveau mondial. Et donc, elle pourrait le faire pour la F1. Donc, il y a encore une source d'espoir. D'autant plus, la source d'espoir... Qu'est-ce qui vient corroborer cette source d'espoir? C'est qu'il va y avoir une course, j'allais dire un Grand Prix, c'est pas vraiment un Grand Prix je crois, une course de Formule E, bon, on peut dire un Grand Prix, mais on va dire une course de Formule E à Paris durant la saison 2 de Formule E, donc qui va commencer dans quelques semaines. Donc c'est très intéressant dès la deuxième saison de Formule E, et bien il y a Paris déjà direct qui vient inscrire son circuit au calendrier. Donc c'est bien, ça montre l'intérêt de la commune de Paris, surtout pour le sport auto, et surtout la commune de Paris, vous le savez, fait pas mal de choses pour améliorer l'air, on va dire. Après, je vous laisse juger pour savoir si ces choses sont bien ou pas, mais en tout cas, dans l'intention, ou en tout cas dans leur politique, ils se veulent faire pas mal de choses pour ça, et la Formule E donc, vient s'inscrire dans cette politique, évidemment. C'est comme le maire de Londres qui en avait profité l'année dernière pour se montrer en marge du Grand Prix du double Grand Prix de Formule E qui a été le final de la saison. Et bien là pour Paris c'est pareil, hein, mais les villes en profitent et ont raison. Hein, et puis la Formule E en profite aussi, tout le monde en profite. Vous allez en profiter en allant, je l'espère, si vous êtes dans le coin de Paris pour aller voir cette course. Parce qu'il faut, selon moi, montrer l'engouement pour le sport auto. Et d'ailleurs, hein, si vous êtes interviewé, hein, n'hésitez pas à mettre l'accent sur le sport auto. Je ne saurais que vous recommander ça. Après, c'est votre cœur qui parle, évidemment. Mais si je dois vous donner un conseil, c'est ça. Parce qu'il faut vraiment qu'aussi que les gens comprennent que ce n'est pas seulement l'aspect vert de la Formule E qui plaît, c'est l'aspect course automobile. Et donc, ben, plus il y aura de gens intéressés par cette e-prix, oui, c'est plutôt e-prix le terme d'ailleurs, eh bien, plus ça pourra peut-être montrer aux gens l'engouement autour du sport auto. Et donc, pour la Formule 1, ça donnera un coup de boost certain. Ça pourrait donner un coup de boost certain pour la F1. Après, il y a l'effet inverse que ça peut engendrer, c'est-à-dire qu'on pourrait opposer la Formule 1 et la Formule E. Ça, c'est le raisonnement trivial, j'en ai très peur, mais c'est très possible que ça arrive. C'est-à-dire qu'on dise, ah ouais, la Formule E, c'est cool, c'est jeune, c'est... Il y a comment dire... C'est vraiment quelque chose qui est utile au monde, alors que la F1, pas du tout. Ça, ce serait le raisonnement totalement faux et totalement facile qu'on pourrait faire, mais que je vois bien venir, malheureusement. Donc, ne nourrissez pas tout ça, je vous en conjure. Voilà, en attendant, ben en attendant qu'il y ait un Grand Prix de France qui fasse son retour, c'est-à-dire dans X temps, très franchement, en attendant, on peut se marrer en voyant les tentatives de retour. Enfin, se marrer, c'est un rire jaune, évidemment, hein, c'est rigolo, mais triste à la fois. En attendant, il y a des alternatives qui sont connues, hein, et que vous devez connaître et utiliser. Ben, il y a les Grands Prix frontaliers, comme le Grand Prix d'Espagne, qui est pas très loin, en Catalogne, hein, c'est pas très loin de la frontière. Grand Prix de Monaco, bon là c'est carrément, carrément limite sur le territoire, hein, c'est à Monaco. Le Grand Prix de Belgique, qui est pas très loin si vous êtes plutôt dans la partie nord de la France. Voilà, ça c'est les Grands Prix les plus proches. Et puis il y a d'autres Grands Prix en Europe si jamais vous avez encore plus de moyens pour vous permettre ça. Donc voilà, vous pouvez assister à ces Grands Prix. Mais Espagne, Monaco, Belgique, c'est les plus près de la frontière. Donc bah, n'hésitez pas à y assister si vous avez l'occasion. Voilà, c'était tout pour ce podcast et pour cette émission. Ah, désolé d'avoir un peu, m'être un peu répété, d'avoir un peu bafouillé sur certains éléments d'analyse. J'espère en tout cas que c'était compréhensible. N'hésitez pas à m'indiquer toute remarque sur les réseaux sociaux et sur podcloud.fr, analysef1.podcloud.fr pour le mini-site pour laisser des commentaires. Et donc sur Twitter, @F1analyse et sur la page Facebook d'Analyse F1. Si vous souhaitez également m'ajouter dans le cadre d'une interview ou autre, n'hésitez pas à ajouter le Skype d'Analyse F1, qui est tout simplement Analyse F1 tout attaché. Et voilà, je vous accepterai. Et n'hésitez pas à me laisser un message en marge de votre invitation Skype. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous au prochain dans quelques jours pour une nouvelle chronique. Et en attendant, vivons notre passion. À bientôt.